I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023. On fait la tournée des Zéniths avec Navo. Navo sera en première partie. Ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas. Et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée. Après, il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain, on a raté Pulsion. Ne ratez pas Une Bonne Soirée. Janvier, dans toute la France. Et on fait deux dates en Belgique aussi. Bisous.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce format un peu hors série d'un bon moment. Et aujourd'hui, on va découvrir un métier. C'est un métier dont on entend souvent parler, généralement quand il y a un conflit ou généralement de manière assez négative et tout. Mais c'est un métier qui est essentiel pour que les artistes puissent créer et exister sur scène. C'est le métier de producteur. Donc, il y a plein de légendes urbaines. On voit toujours un mec avec un gros cigare. Là, je vais faire de toi une star. J'ai la chance de travailler avec un producteur très humain et qui a un parcours exceptionnel. Et je suis ravi de le recevoir. Avec Navo, aujourd'hui, on reçoit Thierry Suc.
Et bonjour.
Ça
bonjour,
va Thierry ?
Ouais, ça va bien. Ouais. Merci.
Pas trop intimidé, tu voulais être animateur radio à la base ?
Ouais, j'aurais bien aimé ça. Quand j'étais gamin.
T'as fait des radios étudiantes un peu ?
Non, à l'époque ça n'existait pas. Hein, tu sais, moi je suis un ancêtre de tout ça. Donc, non, c'est. Lorsque j'avais 15 ans, j'avais passé le concours d'entrée à RMC. À l'époque, il fallait envoyer une cassette. Donc, ils m'avaient choisi. Mais ils ne savaient pas que j'avais 15 ans.
Et quand
ils m'ont dit, ah ben non, ça ne va pas être possible.
Il y a la loi.
Et après,
désolé.
La vie a changé. Je ne voulais plus être animateur radio.
Producteur de Thierry Suc Productions, hein, TS. On va dire Fimalac, on dit maintenant directement.
Maintenant, on peut dire que TS3 rejoint le groupe Fimalac Entertainment.
D'accord, d'accord. C'est quoi producteur ?
C'est une bonne question. Mais on va dire que moi, j'aime assez définir cela comme être une sorte de catalyseur de rencontres de gens, de centre de regroupement, oui, de celui qui est au centre de quelque chose, d'être aussi bien dans le marketing, la promotion, l'accompagnement de l'artiste, l'écoute, le prix des places. Il y a tellement de choses, ça regroupe tellement de métiers que du coup, c'est difficile de le définir en une phrase. Mais en tout cas, ouais, regrouper des métiers ou des gens d'énergie différente, j'aime assez ça.
On se dit toujours que pour être riche, il faut être producteur.
Eh ben, dis donc. Allez-y.
C'est compliqué, hein, c'est un métier compliqué. Tu as commencé, pour citer un peu quelques artistes, tu étais le producteur de Florence Foresti actuellement, de Baptiste Le Caplain. Mm-hmm. Tu es notre producteur avec Navo. Tu es le producteur de Yannick Noah, Zazie, Alex Vizorek. On a cité dans une émission aussi.
J'ai entendu. Oui.
Et pas mal d'humoristes. Il y a Mylène Farmer, dont tu es le manager et le producteur depuis quasiment 30 ans.
C'est ça. Un peu plus.
Voilà, donc tu as fait des stades, tu as fait les plus grandes salles de France, tu as fait les plus gros événements de concerts en France. C'est toi qui les as fait. Yannick Noah au Stade de France, c'est toi. Tu as commencé. Alors j'aimerais qu'on reparle sur tes débuts. Comment on passe. Moi, je connais ton début, t'es arrivé, t'as zéro relation dans quoi que ce soit.
Et ça, j'ai une petite question question précision.
Vas-y.
On parle que de spectacle, t'es producteur de spectacle.
Ouais.
T'es pas le producteur de Mylène Farmer, de Yannick Noah en tant que maison de disque.
Non. Non.
Toi,
j'ai pas du tout envie de
t'occupes des spectacles.
Je m'occupe des spectacles, c'est-à-dire tout ce qui est live, tout ce qui est à partir du moment d'accord. où un artiste monte les marches d'escalier pour aller sur la scène, si tant est qu'il y ait des marches. J'aime bien à ce moment-là.
Tu commences, t'as zéro franc à l'époque en poche.
Zéro franc, voilà.
Et t'as zéro relation, zéro contact. Qu'est-ce qui se passe ?
Mon père était ouvrier dans une usine en banlieue de Lyon. Je dis ça sans aucune. C'est pas pour faire pleurer
dans
les chômeurs,
hein,
c'était la réalité, tu vois. Voilà, c'est ça.
Vas-y.
Et si tu veux, mes grands-parents, tout le monde s'était cotisé un peu pour que je puisse partir faire des études supérieures.
Prendre le bus.
Non, j'avais ma bagnole. J'ai eu très vite ma voiture. Je travaillais l'été. C'était l'époque où c'était possible de trouver des jobs étudiants. Il n'y avait pas de radio étudiante, mais il y avait des jobs étudiants. Et voilà, je suis allé dans une école de commerce à Saint-Étienne, plus exactement. Et je m'emmerdais, parce que c'est ce qu'on voulait me faire faire, mais moi, j'avais pas envie d'être là. Donc, au sein du bureau des élèves, j'ai réuni trois écoles dans cette ville de Saint-Étienne, l'école d'ingénieur, l'école des mines et l'école de commerce. Et on a fait un super BDE et on a fait venir une artiste qui s'appelle Véronique Sanson. C'était en...
Grosse star encore, déjà à l'époque.
Déjà à l'époque, c'était une artiste très importante.
Parce que là, on est quoi ? On est fin 70, début
80 ? On est début 80, 81.
T'as 20 ans,
juste après l'élection de François Mitterrand. J'ai 20 ans.
D'accord, mais comment un mec de 20 ans, dans un BDE, un bureau des étudiants, contacte Véronique Sanson ?
Bah, tu cherches à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc,
c'est ça le truc.
Tu cherchais dans l'annuaire agent artistique et tu trouves un agent artistique véreux, en général, dans la région. tu l'appelles et tu dis bonjour, je suis dans l'école de commerce. Et donc il dit ah, je peux vous avoir. D'ailleurs, là, pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que ça devait être un concert de France Gall, en fait, qu'on devait avoir, qui partait en tournée avec Michel Berger pour la première fois. Et en fait, quelques semaines avant cette date, on apprend qu'elle est enceinte de son fils Raphaël, qui est un ami aujourd'hui, et qu'elle ne peut pas faire la tournée. Donc le producteur de France Gall, de Michel Berger à l'époque, Claude Wild, me dit j'ai également Véronique Sanson, est-ce que vous voulez faire un concert à la place avec Véronique Sanson? Et donc c'est ce qu'on a fait.
D'accord.
Voilà, c'est une petite histoire. Mais
comment on fait pour booker une artiste? C'est comme si aujourd'hui on bookait Véronique Sanson, mais c'est comme
aujourd'hui comme toi, une école de commerce va booker Ken Kojandi.
D'accord.
Il y en a, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, il y en a. Et c'est possible, et ça existe encore. Mm-hmm. C'est toutes les grandes écoles, des mines d'ingénieurs, de commerce, etc., en général, ont un gala de l'école.
C'est un pari ou pas d'organiser un concert avec Véronique Sanson? Faut remplir une salle quand même. C'est quoi? C'est une grande
surtout
salle.
Surtout quand tu connais rien, surtout quand tu savais pas. J'avais une salle de 4000 places.
Il y a une structure, il y a de la technique à installer.
Ouais, mais je sais pas, je me suis débrouillé. J'ai tout fait. J'ai collé les affiches la nuit, j'ai mis les billets en vente.
Parce qu'il y avait un public, c'était pas seulement.
L'idée, c'était de faire un concert dont le bénéfice irait à l'école, enfin, au Super BDR.
Produire, en fait.
Ouais, voilà, produire. Pour la première fois, et tu te débrouilles, t'apprends tout seul. Quoi, tu vois, j'avais personne qui me disait ce qu'il fallait faire.
Et ça, tu l'as fait parce que tu savais que tu voulais être producteur?
Pas du tout. J'avais pas la moindre idée, mais j'aimais ce métier. Je crois que j'aimais déjà tout ça. C'était inconscient, hein, bien évidemment.
C'est inconscient de faire ça.
Mais il faut rêver. Je crois que je rêvais tout ça. Tu vois, quand t'es un gamin qui, encore une fois, vient d'un monde qui est tellement loin de tout cela et que tu rêves en regardant Michel Drucker déjà à la télévision ou je sais pas, moi, je rêvais, on en viendra sans doute, on parlera de David Bowie, mais je rêvais de David Bowie. Je rêvais de plein de choses qui m'excitaient énormément en disant comment on peut y arriver. Donc j'avais trouvé un moyen probablement de mettre un pied dans cet univers qu'on appelait le show business et on disait il fallait coucher, il fallait de l'argent, moi, j'ai pas eu besoin ni de l'un ni de l'autre, donc c'est bien.
Donc, mais attends, t'as fait tout ça parce qu'il y a un métier technique, il y a toute une fiche technique à rendre, il y a un bordel, il y a de l'argent à mettre, il faut mettre
L'argent. L'argent, c'était dans le cadre du BDE, on avait de l'argent, en fait, avec les trois écoles, tu vois, on avait de l'argent. Et d'ailleurs, on a paumé de l'argent. Donc,
ce soir-là, on a paumé de l'argent.
Donc, c'était pas une grande réussite commerciale.
Et Véronique Sanson, tu l'as recroisée plus tard et tu lui as dit.
Oui, bien sûr, je suis allé chez elle il y a quelques mois, elle m'a appelé pour me dire qu'elle aimerait que je vienne la voir. Donc, oui, bien sûr. Mais voilà, la vie a fait son chemin et voilà, c'est rigolo de regarder tout ça avec beaucoup de tendresse. Et ce monsieur qui s'appelle Claude Wild, qui était son producteur ce soir-là, a changé ma vie sans le savoir. Voilà, il m'a dit, vous êtes fait pour ça. Je lui ai dit, oui, mais je ne connais personne. Il m'a dit, vous me connaissez, moi, à partir de ce soir.
Oh, stylé.
Et en 82, il m'a dit, voilà, vous allez organiser mes spectacles à Lyon. Donc, je suis parti à Lyon. Enfin, je suis revenu là où j'habitais, en fait, initialement. Et j'ai fondé une loi 1901, parce que je n'avais pas de quoi de mettre le capital d'une société.
Une association, du coup.
Une association, loi 1901, avec deux copines. Et ce monsieur, Claude Wild, a tenu parole et on a organisé le concert de France Gall, qui avait accouché entre-temps et qui est venu. Et le premier soir, on a fait 6500 personnes.
Donc, c'est énorme d'organiser un événement de 6500. La responsabilité que c'est.
Ce qui était fou, c'était ça. C'était tous les autres me regardaient en disant, c'est qui ce connard qui a 21 ans 20, à l'époque, je devais avoir 21 ans après. Et il arrive et premier concert, moi, j'ai jamais fait 100 personnes, hein, 6500 personnes. Et ensuite, on a eu Elton John, parce qu'il avait Elton John, 22 000 personnes. Bon. Et donc, tout est passé comme ça. Voilà. C'était fou, quoi. Michel Jonas, Eddie Mitchell. Enfin, j'ai tellement de souvenirs de ces moments-là où tout d'un coup, j'avais acheté un tréteau. Ikea n'existait pas à l'époque, mais un tréteau quelque part que j'avais pas en rouge. J'avais mis un téléphone et j'avais dit, je suis organisateur spectacle. Mais je l'étais pas, en fait, tu vois.
Juste avec
j'attendais, j'attendais que le téléphone sonne, mais personne m'appelait, en fait. À part ce monsieur, Claude Wild. Personne m'attendait, mais c'était drôle.
Mais tu dois embaucher des gens à ce moment-là. Tu dois quand même.
Oui,
parce qu'en fait, il t'a pas engagé.
Ah ben non.
Il t'a pas fait rentrer dans sa boîte.
Non, du tout.
Voilà, ton
vous allez organiser mes concerts.
Tu t'occupes des concerts que j'ai envie de faire.
10% de la recette. Voilà. Il me donnait 10% de la recette pour couvrir mon travail. Et donc, on a fait Tina Turner, Elton John, je sais pas, j'en ai fait tellement. James Brown, qui était tout seul sur le quai de la gare de Lyon, que je suis allé chercher en voiture avec sa valise. Il n'y avait même pas un secrétaire qui l'accompagnait. Enfin, je pourrais vous en citer.
Incroyable.
Bruce Springsteen au stade de Geoffroy Guichard à l'époque.
T'as organisé des stades à 22 ans, 23 ans?
Alors là, je jouais 23, 24, ouais.
C'est 24, incroyable. Ouais. C'est pour ça qu'il faut, jamais sous-estimer personne.
Il faut rêver.
C'est vrai qu'il a eu le nez de se rendre compte que t'en étais capable, que t'allais tenir le truc, tenir la barque.
Fallait être fou.
Alors toi, t'étais fou, mais lui, il s'est rendu compte que t'allais y arriver, parce que techniquement,
ouais, il y a cru.
T'as tenu le truc.
Ouais, il y a cru. J'ai su m'entourer, je crois. Tu sais, vous le savez tous les deux, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et c'est pas moi tout seul, j'aurais été incapable. Et encore aujourd'hui, si j'avais pas les gens qui sont avec moi, les équipes qui sont avec moi, je suis incapable de faire tout ce que l'on peut réaliser sur une année.
Mais alors, comment on les trouve?
Bah, tu vas piquer chez les voisins, tu regardes.
Surtout à 21 ans.
Tu regardes les autres organisateurs et on te. Tout est histoire de rencontre.
Tout d'un coup, tu dois faire France Gall.
Ouais,
t'as 21 ans, et
je rencontre
dit,
un
je
garçon
personne.
Qui s'appelle Thierry Théodori, qui après est devenu directeur de la Tony Garnier, la plus grande salle de France, tout ça. Mais à l'époque, il était régisseur et c'est devenu mon régisseur. Il organisait tout.
Et tu t'es fait avoir aussi, tu t'es fait beaucoup avoir à 22 ans. À 22 ans, t'es.
Ah, mais bien sûr, mais bien sûr, parce que c'est un monde d'escrocs. Donc, ouais. À l'époque, plus aujourd'hui, c'est un monde très. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait de la double billetterie, par exemple, il va en prison. À l'époque, c'était monnaie courante, c'est-à-dire tout le monde imprimait, les imprimeurs faisaient double billetterie. C'est-à-dire
qu'ils vendaient plus de places que de prévu.
Bien évidemment, et puis il y avait une partie qui disparaissait, enfin, tout ça, c'était une autre époque.
C'est-à-dire double billetterie, c'est une arnaque?
Oui, bien sûr, c'est pour ça que ce métier avait une époque...
Mais comment il fonctionne, je comprends pas.
Donc il y a des gens, il n'y a plus de chaises,
on se prendra un rendez-vous en privé si tu fais... mais aujourd'hui, tu fais ça, tu vas en prison direct, et heureusement, depuis très longtemps...
C'est-à-dire que tu vends plus de billets que tu n'as de place?
Oui, mais les capacités de salle. Par exemple, Kian a joué, vous avez joué tous les deux à la Bourse du Travail. Vous connaissez cette salle. Aujourd'hui, la Bourse du Travail est complète à 1600 et des brouettes, tu vois, 1600 personnes à peu près. À l'époque, on mettait 3500 personnes. C'est-à-dire, je ne sais même plus quand je vais à la bourse et que je vois à quel point c'est complet quand on fait un spectacle, je ne sais même pas où on mettait le double.
Tu vois. Ah oui.
Tout était comme ça. Le Palais des Sports de Lyon, récemment, on avait fait des événements, c'était 6500 personnes à capacité. On mettait 23 000 personnes. Tu vois, c'est pour donner.
C'est l'époque où il n'y a pas de ceinture de sécurité à la voiture.
Mais voilà.
On fumait devant les gosses.
Et encore, on peut continuer. On peut en donner plein d'exemples comme ça. Tu vois. C'est une autre époque, les années 80.
Ouais, j'avoue.
Donc, c'était assez fou.
Donc là, tu te formes, tu te fais avoir, il y a plein de choses qui sont compliquées. Tu gagnes ta vie?
Ouais, mais je perds beaucoup d'argent parce que j'achète des spectacles à des j'ai besoin de me faire connaître. Donc j'achète aussi à des agents artistiques et tout ça, des spectacles où je me plante, tu vois. Je vais pas
acheter un spectacle, tu dis il y a un spectacle à Paris, tu dis moi je l'achète à Lyon.
Voilà.
Je paye tout et je prendrai la caisse supplémentaire qu'il y aura, c'est ça?
Exactement, et tu vois, et je me suis planté beaucoup. Donc ce que je gagnais, les 10% que je gagnais d'un côté, je reperdais en achetant des spectacles.
Mais t'étais dans une logique de travailler avec moi parce que dans le futur ça comptera.
Parce que je suis différent, non, c'est parce que je suis différent.
Je suis différent.
Parce que je suis différent. J'avais cette arrogance.
T'étais arrogant, mais en quoi c'est différent?
Non, mais arrogance.
Envers toi-même, mais en quoi t'es différent avec les gens?
Je
tu sais, moi, je déjà, pense que t'es différent. Mais
bon,
je pense
ça c'est gentil. Moi, je sais pas en quoi je suis différent, mais.
Alors, dis-nous en quoi il est différent.
Bah, c'est parce que t'es, en fait, je crois que t'es un des gars qui pèse le plus dans le game. Tout le monde voudrait travailler avec toi parce que c'est fiable, t'as des équipes fiables et tout. Et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi. Normalement, les gens qui ont cette capacité à pouvoir faire que les artistes naissent et explosent se prennent un peu la tête ou peuvent avoir le sang qui monte. Et toi, t'es toujours calme,
parce
simple.
Que je me suis planté.
Il y a toujours une.
je suis beaucoup planté.
Mais il y a une considération. T'as une vraie considération de l'humain et t'as une considération de voilà. Ça, il faut pas le faire. Si c'est pas prêt, faut pas le faire. Jamais presser le citron de l'artiste. Jamais. Toujours dans l'écoute.
C'est gentil, mais d'abord tout le monde veut pas travailler avec moi. Pense qu'on se ressemble. Je pense qu'aujourd'hui vous faites partie de ma famille comme je fais partie de la vôtre. Et c'est une vraie famille d'artistes aujourd'hui. Je crois qu'on travaille avec à peu près 25 artistes. Mm-hmm. Tu vois, je veux pas travailler avec 50 ou 70 ou 80. J'ai pas du tout envie de ça. Parce qu'il faut justement garder un rapport à personne. Oui, mais je pense que ceux ou celles qui ont envie de travailler avec moi ou avec nous, ils cherchent une qualité de relation humaine qu'on peut leur donner. D'autres cherchent un gros chèque, par exemple, et il n'y a que ça. Ils n'en ont rien à foutre que le producteur soit uniquement un mec avec un attaché caisse. Chacun sent, et ils font très bien leur travail. Donc je crois qu'il y a des gens qui se ressemblent et qui s'assemblent pour reprendre une jolie... et que donc voilà, tout le monde n'a pas du tout envie de travailler avec moi, et moi, je n'ai surtout pas envie de travailler avec tout le monde.
Mais tu as toujours eu cette éthique de relations humaines avant tout?
Elle est venue avec le temps, tu sais, tu me connais bien, donc je suis quelqu'un qui a fait un long travail personnel. Ouais. Et si j'avais pas fait ça, je serais sans doute mort, parce que je pense que j'ai dû être un jeune con, arrogant, prétentieux, peut-être à un moment donné, tu vois, parce que tu sais
je
pas ce qui t'arrive.
Je t'imagine comme ça, mais je peux le comprendre.
Mais parce que j'avais 25 ans, Jean-Jacques Goldman m'avait choisi comme producteur.
Oui, on va en parler, justement.
Tu vois, tu te retrouves avec beaucoup d'argent du jour au lendemain. Alors là, c'était plus de l'organisation à Lyon, c'était tes producteurs de l'artiste le plus important. Et sur sa deuxième tournée, on faisait 1 million de spectateurs. Comment tu gères ça à 24 ans, 25 ans, je sais plus, 24, 23, 24. Donc tu vois, donc forcément, mes copains, mes amis, quand je me suis cassé la gueule, m'ont dit « c'était bien, hein, ça t'a fait du bien de te casser la gueule, t'es redevenu ». Donc oui, j'ai dû péter un plomb, il fallait le faire, il fallait passer par là.
Est-ce que je pense que c'est une... J'ai moi-même eu ce moment de pétage de plomb, alors avant d'être connu, mais...
Bien sûr.
À peu près le même âge, 27 ans, ouais, 26, voilà. 27 ans.
Mais ça se comprend.
Et ça m'a fait du bien et ça m'a calmé. C'est ça, donc il y a une similarité à ce niveau-là aussi. Et Jean-Jacques Goldman, comment ça... Pardon.
Ce serait quoi du coup cette arrogance? C'est en fait une espèce de bascule entre le moment où tu es le seul à croire en toi, parce que t'en parles comme d'un truc que t'as vécu et que tu as vécu aussi. L'impression que j'ai, c'est que je suis le seul à croire en moi. Tout d'un coup, on croit en moi. Et c'est une espèce de surdose de « j'y arrive, vous avez vu que je savais que j'allais y arriver avant de redescendre ?»
C'est une surdose inconsciente, encore une fois. Moi, pour moi, les premières années, tout est inconscient. Si tu fonces, tu as envie de bouffer tout, quoi. Tu vois, tu as juste envie d'avaler tout le monde et tout ce qu'il y a. Tu as envie de pousser toutes les portes, tu as envie d'être le grand. Enfin, tu vois, tout d'un coup, tu dis, ça y est, c'est moi, c'est mon tour. Et blam, tu te casses la gueule et ça te fait beaucoup de bien, je peux te dire.
Ça y est, c'est moi, c'est mon tour. C'est genre le...
Non, mais moi, j'étais fou. Hein. Je me levais le matin, je prenais le Concorde pour aller à New York, je faisais des courses, je rentrais le soir, je faisais Ferrari, j'ai fait n'importe quoi. Mais j'avais 24 ans, 25 ans, tu vois. Donc, c'était. Ouais. Voilà, mon père, j'arrivais avec une Ferrari que j'avais louée. Non, mais c'était, il fallait être fou, tu vois. Mais c'était ça. Et c'était à la fois, je suis tellement content d'avoir vécu des trucs comme ça que c'est.
C'est quoi l'histoire de Jean-Jacques Goldman, là? T'es dans un restaurant, un soir?
Je suis dans une boîte à Lyon.
Parce que pour situer, là, tu dis 23-24. Donc on est d'accord que c'est 2-3 ans.
En 83, 2-3
ans après le BDE, quoi.
Très, très vite, ouais. Ça allait très vite. Jean-Jacques venait de sortir la chanson « Il suffira d'un signe », donc ça c'est 82 si je ne me trompe pas, et je le rencontre dans une boîte à Lyon qui s'appelait le Palladium, et le responsable de la maison de disques CBS à l'époque, en Sony, qui était dans la région Rhône-Alpes, dit « bah viens, on a un jeune artiste en développement », et je faisais ça régulièrement, j'en ai rencontré pas mal d'autres à cette époque-là, et puis je vais voir Jean-Jacques Goldman, je lui donne une carte de visite, et je lui dis « voilà ».
Ah, « Il suffira d'un signe », on le considérait encore en développement.
Ah oui, parce que c'est son premier single. Donc, c'était le premier single de... Il avait quitté Taifong parce qu'il ne voulait pas faire de concert. Ce qui, est, pour la petite histoire, est assez drôle. Mais donc, comme il n'aimait pas les spectacles, il n'aimait pas partir en tournée.
C'est le premier single, c'est-à-dire que son premier je te donne solo. Ou je ne sais pas quoi.
Ah, ça, c'est arrivé 5 ans.
Envole-moi, tout ça, c'est après.
Ça, c'est après. Il suffira d'un signe, c'est le premier. Et donc, on se rencontre, je lui donne une carte, je lui dis, si un jour vous faites des concerts, j'aimerais beaucoup organiser votre concert à Lyon, comme tu peux rencontrer des gens lorsque tu es au restaurant à Strasbourg, qui te dit, tu vois, voilà. Et il me dit, oh, vous savez, j'ai quitté Taifong, j'ai pas du tout envie de faire des concerts, donc j'en ferai jamais. Et puis bon, ça marche très
Taifong,
fort.
Taifong, c'est quoi Taifong? C'est un autre
chanson. Sister Jane, leur single, et c'est un groupe dans lequel j'ai été chanteur.
Ouais,
je savais pas. Très belle chanson, Sister Jane.
Ah, je savais pas.
Et donc il arrête le groupe pour ça. Il voulait, lui, son rêve, c'était de faire des chansons pour les autres, et pas du tout d'être chanteur.
D'accord. Et, on peut dire qu'il a réalisé.
De toute façon, il l'a réalisé. Il a tout réalisé. Et donc, le deuxième album arrive, je ne sais plus, un an et demi après, donc assez vite. Et dedans, il y a quand la musique est bonne. Et là, donc, forcément, tout explose et il m'appelle. Et il me dit, bon, bah, il va falloir que j'aille sur scène, mais tu ne veux pas être mon producteur.
Dis, ah, carrément producteur global, pas
oui,
à Lyon.
Oui, et moi, je dis, mais je ne sais pas faire ça, mais il me dit, tu vas apprendre. On va apprendre ensemble, puisque moi, ça sera ma première tournée. Parce qu'en tête, il avait déjà
et
dans
pourquoi
la tête...
Pourquoi toi, est-ce que tu lui as juste donné une carte?
Non, parce qu'en fait, il avait... Comme Jean-Jacques est quelqu'un qui anticipe beaucoup les choses, comme tu peux l'être, il est assez cérébral. Et il avait... En fait, c'est une longue histoire, mais ses parents, pendant la guerre, avaient été cachés par une famille qui s'appelait les Schmitt. Et il se rappelait que le fils de cette famille était metteur en scène, faisait d'ALC. Il s'est dit, j'ai rencontré, ils habitent à Lyon. Donc, mes parents ont été cachés pendant la guerre par ces gens-là. Le fils fait de la mise en scène. J'ai rencontré le petit gars de Lyon. J'ai pas envie de tous les gros parisiens, parce que tout le monde était frappé à sa porte. Camus, Coulier, tout le monde allait faire le siège pour l'avoir. Et il s'est dit, j'ai vu le petit gars, j'ai mon histoire. Et en effet, c'était une très jolie histoire, puisqu'on s'est retrouvés tous les trois en n'ayant jamais fait ça. Donc, je conduisais la voiture, je faisais les comptes.
C'est-à-dire, où est Schmitt?
Alors, Schmitt est metteur en scène, pardon. Okay. Schmitt, donc, Bernard Schmitt est metteur en scène, pardon, je suis allé trop
et
vite.
Et toi, tu connaissais Bernard Schmitt?
Ben, je l'ai rencontré grâce à Jean-Jacques.
Mais pourquoi
pas.
Il te choisit toi? Je comprends pourquoi il
parce
choisit
qu'il était
Bernard Schmitt.
Parce que j'étais le petit gars qu'il avait rencontré à Lyon, avec sa carte.
Ah, c'est vraiment pour ça.
Donc, ça se relie par ça en disant c'est la même ville. Ils sont dans la même ville. Mes parents ont été cachés par cette famille.
Il suffira d'un signe.
Il suffira d'un signe. Mais c'est un peu ça, très joli. Très joli.
En fait, c'est intéressant. Est-ce que. Peut-être c'est moi qui projette un truc, c'est que, à mon sens, c'est toujours cool de grandir ensemble. Mmh. Et qu'en fait, au lieu d'avoir un gros qui vient te chercher,
tout à fait ça.
À la limite, ça peut arriver plus tard. Typiquement, une fois qu'on a fait bref, etc., et que bon, là, tu peux avoir quelqu'un qui t'entends super bien, puis vous êtes déjà assez gros tous les deux, donc allez, on bosse ensemble. Par exemple, Harry, c'était ça. C'est que moi, je trouvais Harry Torgeman, qui est notre producteur sur bref, c'est vachement mieux de grandir ensemble. Il y a un truc plus prenant à dire, on est trois petits et on va y aller ensemble. Est-ce que tu penses qu'il y avait ça chez Jean-Jacques Goldman?
Bien évidemment.
Ouais. Puis plutôt que d'aller chercher un gros qui connaît déjà tout, puis qui peut t'ignorer un peu, ou te dire non, c'est comme ci, c'est comme
mais
ça.
Mais tu as raison. Mais je vais te répondre d'ailleurs aussi à cela. On a déjeuné ensemble il y a quelques temps à Londres, parce qu'il vit essentiellement à Londres, et je le remercie régulièrement pour dire sans toi, ma vie ne serait pas celle qu'elle est. Je le pense et je le vis à l'intérieur tous les jours. Mais lui, il me dit, mais sans toi, je n'aurais pas fait le même truc. Mais je lui dis, comment tu peux me dire ça? Et ça rejoint un peu ça, cette histoire qu'on a construite ensemble. Et, par exemple, on lui avait proposé de faire la première partie des concerts de Julien Clerc. Il me l'a rappelé l'autre jour en me disant, mais tu m'as dit de ne pas faire ça. Et je t'ai écouté. Et il me dit, sans doute, si j'avais fait des premières parties, je n'aurais pas fait le même chemin. Je dis bien sûr que si. Il me dit mais non, vraiment, c'était important. J'ai démarré tout seul, mon tour. Et je ne me suis pas retrouvé à faire des premières parties. À cette époque-là, c'était très important. Bon. Lui, c'est sa façon de dire, voilà, j'avais besoin de cette histoire-là. Et moi, forcément, je le remercierai jusqu'à la fin de mes jours de cette aventure commune, comme tu le dis, de partager ensemble le risque de démarrer tout à zéro.
Il a l'air toujours très simple, Jean-Jacques Goldman.
Il est simple et complexe, mais ouais. Ça dépend qu'est-ce qu'on place dans le mot simplicité.
Il a l'air, non, mais il a l'air très, très accessible. Il
est
C'est-à-dire que pendant que tu allais en Concorde faire des courses, je ne l'imagine pas du tout être avec toi.
Pas du tout, mais pas du tout, parce que moi j'étais fou.
Tu imagines manger des pâtes tranquille. Ouais.
Je me suis dit, ah, t'es parti en Concorde, je suis content pour toi.
Il est fou, l'autre, il est fou. Mais un jour, on parlait de tout cela avec le recul, et il me disait, tu sais, moi j'ai eu la chance que le succès m'arrive à 31 ans, on a 10 ans d'écart. Moi j'avais donc 21, 22, lui avait 31. Et il me dit, si j'avais eu ce succès-là, on parlait des boys bands, je crois, du fait que des gamins de 20 ans, tout d'un coup, sont propulsés au sommet, et ils ont 20 ans, ils pètent un câble, justement, etc. Il y a de quoi. C'est très violent. Tu te retrouves, t'es anonyme, tu fais une émission de télé-réalité, tu fais un boys band, et t'es
en
à
trois
Bercy.
Semaines, ta chambre, ta vie change.
Tu fais trois semaines au Zénith, je sais pas, t'étais inconnu 15 jours avant, tu te retrouves trois semaines au Zénith, et puis un an après, t'es plus rien. Bon, tout ça, c'est violent, et il est possible, en effet, de... Et lui, cette chance qu'il avait, c'était de dire, moi, j'ai plus de 30 ans, et moi, j'avais 20 ans. Bon, moi, j'ai vraiment fait toutes les conneries qu'on peut faire à ce moment-là.
Vous partez en tournée, ça marche, tu te casses la gueule. Ça veut dire quoi, je me casse la gueule?
Mon rêve était de rencontrer David Bowie, et de produire David Bowie. Donc là, on n'aura pas assez de temps pour que je raconte toute l'histoire, mais... To cut a long story short, la vie m'a amené à aider quelqu'un qui était Albert Kosky, qui est toujours Albert Kosky, mais qui était le producteur de David Bowie, à l'aider parce que financièrement, je pouvais le faire. Et à la fin, il s'est quand même cassé la figure. Il me dit, comment je peux te rembourser? Et je lui ai dit, la seule chose, c'est qu'on produise David Bowie ensemble. C'est mon rêve d'enfant, d'adolescence. Je l'ai rêvé. J'avais 15 ans dans ma chambre. Et il m'a dit, bon, bah, top là, on va le faire. Et on a produit David Bowie en 87. C'est la tournée Glass Spider Tour qui passait par la Courneuve à Paris et que les stades en France, Toulouse, Nice et Lyon. Et on s'est cassé la figure. Bon. Alors, comment on se casse la figure avec David Bowie? C'est les systèmes, à l'époque et encore aujourd'hui, les demandes financières des agents internationaux étaient calculées sur le score que l'artiste avait fait la fois d'avant. Bowie avait eu Let's Dance en 1983, il avait fait un peu plus de 100 000 personnes à Paris. Il fallait garantir 75 000 spectateurs à Paris. On a fait 55 000, ce qui était beaucoup de monde, mais c'était 20 000 de moins que ce qu'il fallait pour équilibrer. Et quand tu fais 20 000 de moins à Lyon, 20 000 de moins à Toulouse, 20 000 de moins à Nice et à Paris, tu as très mal à la tête.
Ah, que tu dois cet argent.
Tu avais un engagement, tu le payes de toute façon comme s'il avait fait 75 000, même s'il a fait moins. Parce qu'il a fait ses preuves.
Aujourd'hui, c'est pareil.
Il a fait ses preuves précédemment.
Voilà. Et donc, ça fait très mal à la tête. Ça fait,
et qu'est-ce qu'a fait, tu l'as analysé, ce qui a fait que cette fois-là, il a moins rempli
que la fois d'avant? Parce qu'il n'y avait pas l'album. Il y avait un album qui ne marchait pas. Tu vois, Let's Dance, c'est son plus gros succès commercial. Ouais. Il n'a jamais aimé ça. Ça ne lui a pas plu d'être...
Oui, donc il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas... On ne cherchait pas le dernier single.
Il a fait une chanson qui s'appelait Never Let Me Down, qui n'a pas marché, etc. Et il avait un show très cher. En plus, c'est arrivé avec le show le plus cher qu'il avait jamais eu à l'époque. C'était bon. Mais moi, je réalisais mon rêve. Donc, l'argent n'était pas très important.
Donc ça, c'est un cassage de gueule. Ça veut dire quoi?
Cassage de gueule énorme.
Ça veut dire que tu n'as plus rien.
Tu
es endetté.
Tu n'as plus rien. Tu ne peux même plus payer le loyer de l'appartement dans lequel tu habites. Tu es à la rue. Et tu te dis, j'ai 26 ans, qu'est-ce que je vais faire? Bon. Et la vie
t'es la banqueroute, quoi. C'est
banqueroute
vraiment...
totale, ouais. J'avais plus un centime. Et la vie t'amène de rencontrer. Un soir, on t'appelle, on dit voilà, Mylène Farmer vient de. Va aller sur scène. Elle a fait son deuxième album et elle va rencontrer. Donc, elle a rencontré deux ou trois confrères. Et est-ce que vous voulez dîner avec elle? Et elle va choisir à l'issue de ça avec qui elle va travailler. Donc, je vais au restaurant, bien sûr. Je remonte une société, mais c'était compliqué. J'avais quand même un peu. C'était douloureux, tout ça. Et Mylène, à l'issue de ce dîner, dit « c'est avec toi que je vais travailler ». Elle fait cette première tournée en 1989, on produit ce premier spectacle. Et à la fin de la tournée, elle se sépare de son manager et elle me demande de la manager. Et je lui dis « mais moi, j'ai jamais fait ça ».
Alors là, tu le passes un peu rapidement, mais on parle de plusieurs années. Non, mais on parle de plusieurs années, parce que tu dis que Bowie, c'était en
87 et ça, c'est 89.
89, donc pendant deux ans.
Ouais.
C'est la traversée du désert.
C'est un peu la traversée du désert.
T'es à zéro.
Ouais.
T'es passé de « je vais faire mes courses à New York en Concorde »
j'arrive pas à payer mon loyer. Mais Jean-Jacques Goldman m'avait dit « on va continuer ensemble ». Donc, on a fait la tournée de 88 ensemble. Et on avait trouvé un accord. Moi, j'avais plus de société. On avait trouvé un accord pour que je puisse continuer à exister.
Okay.
Donc, j'étais quand même, on va dire, producteur exécutif de la tournée de Jean-Jacques. Mais c'était une longue histoire après tout ça.
Donc en 87, ça s'effondre. 88,
je repars sur une Goldman, forme de production
exécutive.
Au moins,
exécutive. Tu payes ton loyer, t'es bien.
Voilà.
Là, bim, Mylène Farmer.
Ça t'affecte ou pas?
Ah oui, ça m'affecte, mais je fonce. Je continue de foncer. J'ai réalisé le rêve de ma vie. Je travaille avec les artistes français numéro un. Donc ça va.
C'est-à-dire que pour toi, c'est j'ai raté. Enfin, c'est même pas toi vraiment qui l'a raté. On a ce projet qui a foiré, voilà. Ou j'ai raté. Je suis pas un bon.
C'est intéressant. C'était le rêve de ma vie. C'est ça qui est intéressant. C'est tu réalises ton rêve.
Mais c'est ça qui
c'est celui qui va te faire tomber. Mais c'est ça reste. Ça reste dans ma tête. J'ai réalisé le rêve de ma vie. Donc c'est quand même quelque chose d'important.
Mais tu gardes la foi.
Tu gardes la foi. Oui, oui, je garde la foi. Et Dieu m'a donné la foi là.
Donc là, tu pars avec Mylène, et là, c'est le début d'une grosse aventure. C'est 30 ans d'aventure qui commence.
Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, oui. Donc, c'est merveilleux, parce que c'est... Et aujourd'hui, finalement, c'est ce que j'aime. Tu vois, Mylène, ça fait plus de 30 ans. Zazie, ça fait 27 ans, je crois. Etienne Dao, ça fait 21 ans. Calogero, ça fait 21 ans. Et puis après, vous arrivez, puisque l'humour est arrivé après, mais voilà, l'histoire avec les humoristes commence à arriver. La première, c'est Valérie Lemercier. Mais ça fait maintenant, ça fait 13-14 ans.
Qui n'a jamais voulu capter ces shows.
Jamais.
C'est fou, jamais. Ça. On n'a jamais aucune trace de ces spectacles. Ça devient des légendes, du coup.
Elle a hésité lorsqu'on a fait le spectacle au Palace. Il y avait une caméra cachée, elle le savait. Il fallait enlever le point rouge pour pas qu'elle voie. Donc, ça a été fait. Et puis, elle n'a pas supporté l'idée. Donc, voilà. Malheureusement, ça ne sortira pas. Mais c'est... Et puis, c'est devenu quelque chose, en effet, de culte. Quelque chose qui fait que... De renoncer à cela à une époque où les artistes vendaient des centaines de milliers de cassettes vidéo, tu imagines financièrement aisément les sommes qu'elle aurait pu gagner, qu'elle a choisi délibérément de ne pas prendre. Non, alors c'était pas forcément une posture bien sûr liée à l'argent, c'était une posture liée au fait qu'elle avait pas envie que les gens regardent et rigolent dans leur salon de choses qu'elle avait. C'est le lieu de rencontre pour la voir, c'était la scène, le théâtre, et elle a gardé cette ligne depuis ses tout débuts, je crois que c'est en 88.
Alors c'est quoi manager? Parce que tu dis, je m'occupe des spectacles de Mylène.
Ouais.
Et là, elle me demande d'être son manager. Qu'est-ce
manager,
que ça
change? Tu gères un peu tout. T'es le carrefour avec la maison de disques. T'es le carrefour de toutes les demandes qui arrivent. Tu vois, en ce moment, je suis
pas que la scène. Genre les films, la pub.
Voilà.
Et après, les clips, c'est toi qui la carrière, les interviews.
Les avocats, les notaires.
T'es son conseiller, quoi.
Oui. Je suis un de ses conseillers, parce qu'aujourd'hui, on est plusieurs, parce que c'est beaucoup de travail, si tu veux, une artiste comme Mylène, au niveau de toutes les demandes qui arrivent tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas plusieurs demandes sur plusieurs sujets, ce qui est normal. Et mon métier depuis 30 ans est de dire non à 97 ou 98% des demandes, à peu près.
Et à ce moment-là, c'est nouveau pour toi?
C'est nouveau. Et j'ai appris énormément. Ça m'a permis, je pense, tu me posais une question tout à l'heure qui est intéressante, c'est à quel moment tu sens qu'il y a quelque chose peut-être qui a changé vers l'humanité ou vers la façon d'aborder... la relation avec des artistes. Enfin, je pense que d'être dans le management d'un artiste important m'a permis de me rendre compte de tout ce qui arrivait, ce qui pouvait se passer dans vos carrières, et d'aborder cela différemment que d'être le producteur qui est au bout de la chaîne et qui s'occupe uniquement du marketing, des places que l'on vend, etc. Et de voir tout ce qui peut se passer en amont dans la carrière d'un artiste et de regarder...
Ça a mis beaucoup de psychologie dans le rapport.
Beaucoup de psychologie, beaucoup de compréhension de tout. Je l'ai fait qu'une fois dans ma vie, je le ferai qu'une fois.
C'est une légende vivante, ça, Mylène.
C'est une légende, absolument.
Pour beaucoup de gens, c'est...
Tu le ferais qu'une fois, c'est-à-dire?
Je ne ferai plus jamais de management. Parce que je te dis, il n'y a pas un jour de libre, en fait, sur le management. C'est-à-dire que tous les jours...
Tu es toujours manager de...
Je suis toujours, ce jour, oui.
Et comment tu concilies... Parce qu'en fait, on peut avoir l'impression qu'il y a une contradiction dans le fait d'être au départ des choix qui est fait, et en même temps d'être comment tu concilies manager et producteur? Il n'y a pas un conflit d'intérêt?
Il y a un conflit d'intérêt. On l'a toujours très bien travaillé tous les deux. C'est-à-dire qu'encore une fois, depuis une trentaine d'années, on a su toujours les moments où il fallait s'entourer, où elle fallait qu'elle redevienne l'artiste avec son producteur. Mais comme j'étais le manager, il y avait les bonnes personnes qui étaient là pour être auprès d'elle, pour la place que je ne pouvais pas assurer, puisque moi, j'avais 120 personnes à gérer à côté. C'est assez unique. Hein. De toute façon, la carrière Mylène est unique.
Moi, dans ma tête, j'imagine qu'au moment où je dois parler avec mon producteur, scénario catastrophe, enquête conflit. C'est mon manager qui parle avec mon producteur.
Il y a des avocats, il y a des gens qui sont là.
On s'entoure d'autres gens.
On s'entoure et on a toujours très bien.
Quand je te parle et que t'es le producteur et qu'il y a un problème,
c'est une bonne question.
C'est une autre personne qui te parle.
C'est une très bonne question.
Parce que sinon, tu parles avec toi-même. Ah, tu t'appelles et tu dis, écoute, je suis le manager de Mylène, écoute, producteur.
Tout à fait.
Mais c'est subtil comme d'avoir les deux casquettes.
C'est pour ça que je ne le referai plus jamais, parce qu'encore une fois, c'est une carrière unique. Mylène a fait très peu de scènes. En 30 ans, elle aura fait, je crois, 6 ou
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet spectacle, je ne sais plus.
Ouais. Oui, donc finalement, vois, ce conflit-là, il arrive que quand elle fait de la scène.
Il arrive tous les 5-6 ans ouais. Et elle fait des tournées très courtes. Donc voilà, on connaît ces moments-là. On sait très bien comment les gérer tous les deux, elle et moi. Donc, mais c'est difficile, hein, c'est pas simple. Entre elle et moi, c'est simple, mais c'est une situation complexe.
Il faut s'organiser, il faut parler. Faut
c'est pour ça que je ne peux pas le refaire et que c'est quelque chose qui m'a appris énormément et qui m'apprend encore tous les jours. Le rapport aux journalistes, le rapport à... C'est infini, en fait, quand tu es au centre de la carrière de l'artiste par rapport au fait d'être uniquement le producteur. Donc après, moi, je pense aujourd'hui, lorsque nous travaillons ensemble, tous les trois, je pense être plus un manager de la carrière scénique
ouais.
que d'être un producteur uniquement. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est lorsque l'on parle de stratégie, de comment on va définir les 5 ans qui arrivent ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire, vers quoi on veut tendre et qu'est-ce qu'on a envie de proposer, comment tu positionnes l'artiste dans le temps. Ça, c'est intéressant, plus que de faire un coup et de s'arrêter dans 18 mois et d'avoir quelqu'un qui éventuellement... Parce que le métier a beaucoup changé et change beaucoup en ce moment. Plein d'artistes font une tournée avec un producteur, changent à chaque tournée, vont vers un appel d'offres financiers différents. C'est une autre approche. Si ce n'est pas la mienne, ça ne m'intéresse pas. Et si demain, je devais me positionner comme ça, j'arrêterais.
Faire un coup, ça ne t'intéresse pas?
Non. J'ai cette chance aujourd'hui, tu vois. Mais pour un gamin qui débuterait ou une jeune fille qui débute aujourd'hui, forcément, tu n'as pas le choix, tu dois te mettre dans ce marché-là. Et le marché est devenu financier, très financier.
Qu'est-ce que tu dirais à un gars qui veut se lancer dans la production, là, qui nous regarde, un jeune, un mec, toi, il y a 20 ans
oui,
toi, à 20 ans, pardon.
Ou une meuf
qui... Non, bien sûr.
Moi, il y a 40 ans. Oui.
Toi qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est beaucoup plus jeune, qui aimerait se mettre à la production et... Quels sont les écueils à éviter ou quelles sont les qualités à mettre en avant, justement, à avoir les qualités, à se dire si tu as ces qualités-là, je pense que c'est fait pour toi. Voilà, parce que si l'enjeu avec son producteur pour avoir de l'argent, est-ce que c'est le bon choix? Parce que je pense qu'il y a l'argent qui doit forcément tourner la tête à un moment donné, tu vois. Je pense que tu peux venir pour l'argent et après rester pour plein d'autres choses, mais.
C'est une bonne question, Kian. Est-ce que quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Christophe Daranco, qui est un jeune producteur belge.
Ouais. Et notre tourneur en Belgique.
Voilà, et qui est notre ami à tous, qui est devenu notre ami, qui est un jeune garçon qui, quand il y a quelques années, il s'est présenté à moi et j'ai eu pour la première fois peut-être l'impression de reconnaître un peu ce jeune homme que je pouvais être à une époque. Je le trouvais déterminé, et donc il travaillait sur des pour des.
C'était quoi ce nom, Wild?
Non, là c'est Christophe. Pardon, Christophe.
À ton époque.
Ah oui, à mon époque c'était Claude Wild, oui.
Claude Wild. Claude Wild.
Oui, voilà, un peu devenir Claude un peu. Peut-être.
De Chris,
peut-être,
parce que finalement peut-être. Tu l'as pas. Intégré à ta société. Tu non, lui as dit, tout, bien sûr, tu vas me sûr, représenter.
Bien sûr, bien sûr. Mais il travaillait que pour des spectacles d'humour. Il était plutôt sur des salles de 150, 200, 250 places. Et on est allé prendre un verre. Il m'a dit, j'ai un chanteur que j'adore, c'est Calogero. Je lui ai dit, bah, tu vas faire Calogero la prochaine fois. Il m'a regardé.
On parle de Forest National,
on parle du Palais 12, c'est-à-dire 14 000 personnes la première fois. C'est-à-dire qu'il était passé, lui, d'un concert de 300, 400. Il a fait pour la première fois un concert avec 14 000 personnes.
Ouais.
Et depuis, c'est devenu le producteur oui, belge, le tourneur belge le plus important.
Parce que c'est un peu
ben oui.
ce qui t'est arrivé à son âge, en tout cas. Ouais.
Parce que j'ai senti dans son regard, dans sa façon de parler, dans sa détermination, qu'il y avait quelque chose de fort. Et là, je le pousse à devenir producteur. Donc, il m'a invité le mois de novembre à aller voir une artiste qu'il a envie de produire. Et je vais y aller, bien sûr, pour regarder. Mais c'est quelqu'un qui a cette détermination. Faut vraiment...
T'es d'accord, il est génial. Oui, quand on va en Belgique, c'est...
On l'a croisé, en tout cas, humainement, il a l'air investi.
Il est merveilleux, ouais, voilà.
On s'appelle régulièrement.
Avec sa femme, c'est un couple qui travaille ensemble. Ils sont super, c'est vraiment... voilà, ils aiment ce métier, ils aiment les artistes. En fait, on pourrait tout résumer là. Si t'aimes pas les artistes, faut faire autre chose. Tout à l'heure, tu parlais d'argent. Faut laisser l'argent de côté, faut se donner les moyens de... Alors forcément, aujourd'hui, c'est le monde appartient au grand groupe financier. Moi, j'ai la chance de faire partie de ce grand groupe qui est Filmalac Entertainment. Et Marc Ladré-Lacharia m'a permis d'avoir une certaine liberté à un moment donné dans ma vie. C'est-à-dire que je n'ai plus à m'occuper de la gestion d'entreprise. Donc ça, c'est génial.
Surtout pas que le Covid, ça a dû être compliqué.
Ah, ça aurait été compliqué de ne pas être accompagné comme j'ai pu l'être. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on voit que ce soit Live Nation, que ce soit Olympia Productions qui est dans le groupe de Bolloré, etc. Bon, on voit que ce sont des grands groupes. Qui se partagent un peu le marché du live. Il y a quelques indépendants encore, et je pense qu'un jour, ça reviendra probablement. Il y aura de nouveau une place beaucoup plus importante pour les indépendants. Mais
qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'apporte?
La protection financière,
assise financière.
Oui, quand moi, j'avais 20 salariés, tu vois, tout seul, je les ai portés pendant des années, mais quand je me suis cassé la figure en 87, je me suis cassé la figure en 97. J'ai eu très peur en 2007. Mais.
Bientôt 2027.
Je te remercie. Je te reconnais bien là. Mais voilà, tu vois, c'est aujourd'hui, faire de la production en étant un salarié d'un groupe, c'est pas la même chose. Je parle pas que de moi, je parle de tous ceux qui aujourd'hui sont des producteurs ou des productrices, mais avec l'assise d'un groupe financier derrière, c'est pas la même chose que de risquer tous les jours d'être sous les ponts.
Donc c'est ça que tu veux dire quand tu dis ça te donne plus de liberté? C'est que tu...
Alors, à mon âge, ça me donne plus de liberté. Pour les jeunes, je pense que ça enlève une part d'adrénaline et qu'il faut de l'adrénaline. C'est le casino un peu. Hein. C'est... Moi, je suis jamais allé... Enfin, je veux pas aller jouer dans un casino parce que c'était casino tous les matins pour moi. Tu vois, donc un père, la roulette, je connais. Donc, je voulais surtout pas ce que j'avais gagné et aller le jouer.
Le reporting, toi, ça s'appelle, c'est, tu regardes le pointage.
Voilà, voilà. Enfin, le pointage, c'est avant. C'est après que tu regardes. C'est plutôt le bilan à la fin de l'année. Mais bon, c'est une partie joueur. Fallait être en tout cas joueur. Et aujourd'hui, cet apport des grands groupes, comme il y a AEG, j'oubliais, enfin, il y en a d'autres, forcément, enlève la part d'adrénaline. Parce que qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Que tu sois licencié, c'est pas pareil. Tu auras droit d'un chômage. Quand tu es patron d'une société, tu as droit à rien. C'est-à-dire que tu n'as pas un centime d'aide du jour au lendemain.
Et puis, si tu es licencié, tu n'emmènes pas toute ton équipe à l'eau avec toi. Il y a moyen que ton équipe continue de travailler dans le groupe.
C'est ça, c'est ça. C'est très différent.
Et tu ne perds pas en indépendance?
Encore une fois, pas à mon âge et pas avec ce que j'ai fait. La chance que j'ai eue, si tu veux, c'est de toute cette histoire qui s'est écrite au fil de ces décennies. Tu vois, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul Gaultier. C'était inattendu de dire Jean-Paul Gaultier va faire un show.
Le Fashion Freak Show.
Le Fashion Freak Show. Bon, ça a été difficile de vendre l'idée au groupe, aux financiers et tout ça, mais au bout d'un moment, ils m'ont fait confiance.
Ça veut dire qu'il faut injecter beaucoup d'argent au début pour monter le show.
Beaucoup d'argent.
Plusieurs millions d'euros.
Comme ça, c'est 15 millions à peu près. Tu vois, d'accord. Tu pars avec un risque de 15 millions. Donc, et tu ne sais pas du tout combien tu vas vendre de billets. Tu vois. Personne ne peut
faut
le savoir.
Il faut en vendre plus de 4-5, je pense.
Je crois qu'à partir de 9, ça va.
Ouais, à partir de 9.
À partir de 9, ça va.
À partir de 9, mais voilà.
C'est des billets à 2 millions d'euros. Après, c'est pas pareil.
Voilà. Non, donc c'est... Mais ça aussi, ça me permet, si j'avais dû monter le Fashion Freak Show avec... mes deniers personnels, ça aurait été une réflexion complexe. Là, tu es dans ce grand groupe et tu dis, voilà, faites-moi confiance. On a eu la chance, le public a été là. On a fait 9 mois complets au Folies Bergères, ça a été génial. Mais c'est ces aventures-là qui sont passionnantes.
Et dans le monde entier derrière.
Et la tournée dans le monde, malheureusement, elle a été un peu arrêtée avec le Covid, mais on va la reprendre dès l'année prochaine.
Comédie musicale, faire une comédie musicale.
C'est ça.
Là, tu as la comédie musicale Starmania.
Starmania, qu'on a repoussé 2 fois.
Il faut savoir que préparer, faire répéter les gens, c'est énormément de travail. C'est beaucoup
énormément d'argent.
Et il faut payer tous ces gens, les répétitions, les techniciens.
Absolument. Là, on a fait des castings, déjà
plusieurs fois. C'est des grosses mises en danger.
C'est déjà plus d'un million de frais dépensés pour un spectacle qui n'a pas encore vu le jour, parce qu'on a fait beaucoup de castings à Montréal, à Paris. Louer des salles, reporter des salles, enfin tout c'est pas facile, tout ce que l'on vit depuis un an et demi, vous le savez mieux que quiconque, vous artistes. Même si en France, l'accompagnement a été meilleur que dans plein d'autres pays.
Je me suis pas senti en danger.
Mais c'est bien.
Les équipes ont toujours été là, je me sentais pas en danger. Quoi.
Et certains artistes qui étaient dans des positions plus on va dire plus inquiets. Et puis, lorsque je parlais à des confrères américains ou anglais, il n'y avait pas d'aide du tout. C'est-à-dire que les musiciens du Metropolitan Opera à New York, c'était zéro. Donc, zéro pendant un an et demi. Quand tu as une famille, des enfants, ce n'est pas très simple. Nous, il y avait quand même des systèmes d'aide qui permettaient aux gens d'avoir de quoi nourrir leur famille. Voilà. Il ne faut jamais oublier. Je pense que tout le monde râle beaucoup sur le fait d'être en France, mais je pense qu'on peut aussi, de temps en temps, dire on a de la chance.
Ouais. Après, c'est parce qu'on râle qu'on a ça. Comparé aux autres.
Non,
tu vois, il y a une mécanique où tu dis, c'est bien, on dit qu'on
râle. Ah, je te reconnais.
Non, mais tu vois, il faut râler pour avoir les droits.
T'as pas tort, mais en Angleterre, ils ont râlé.
Une fois qu'on les a et quand ils regardent par rapport aux Anglais, ils devraient râler beaucoup.
Mais
comme
ils
nous, on
beaucoup,
râle.
Hein, ils ont beaucoup râlé. Ils disent, il y a des gens qui n'ont pas ouvert les portes. Ouais. Là-bas,
non, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a râlé, mais effectivement, pour soi-même, moi, je suis complètement d'accord. C'est que pour soi-même, il faut se rendre compte, parce qu'à un moment, il faut quand même te comparer au reste du monde.
T'es obligé.
J'ai quand même comparé au reste du monde, même l'intermittence du spectacle. On râle parce qu'on veut toujours mieux, mais ça n'existe quasiment pas ailleurs.
Nulle part.
Alors, l'intermittence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous travaillez 507 heures en tant que comédien, par exemple, il y a plein de métiers du spectacle. Ça peut être régisseur, la personne qui installe les projecteurs. Par exemple, ici, il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre, vous les voyez pas, mais ils installent la lumière. Quelqu'un qui vient, qui est régisseur, qui s'occupe que tout se passe bien ici, c'est-à-dire brancher aussi, qui s'occupe d'électricité, qui est un chef électricien, il est payé en cachet d'intermittent. C'est-à-dire qu'on paye une somme, on lui donne...
C'est-à-dire que ces métiers, par définition, dans la manière dont on les fait, et la manière dont ils doivent s'adapter aux shows
Exactement.
Et aux calendriers, aux agendas, sont intermittents.
C'est ça.
Dans le sens où tu peux ne pas travailler pendant 3 semaines, c'est puis ça. Travailler à blinde pendant 1 semaine.
C'est ça. Et même, je vais aller encore plus loin, c'est que ces gens-là peuvent aussi préparer des spectacles. Et quand tu prépares un spectacle, des fois, tu dis, bon, bah, tu sais quoi, imagine, je vais préparer un spectacle pendant 9 mois, je ne vais pas être payé. Et du coup, l'intermittence permet de justement couvrir la restructuration.
De faire le lien, bien sûr. Du spectacle.
Tout l'argent que tu gagnes d'habitude avec des cachets, t'es compensé par une assurance chômage. C'est ça l'intermittence.
C'est un statut exceptionnel, tu cotises, et formidable et nécessaire.
Et c'est un droit, justement. C'est comme si on disait un droit à la création, quoi.
C'est ce qui fait qu'en France, on a un petit peu plus de création que dans certains autres pays.
C'est ça.
Il n'y a pas grand-chose. Quand on se balade un peu en Europe, déjà sans aller très loin, c'est pas aussi évident.
Hein. On parle, dans les médias, on parle souvent des abus, mais on ne se rend pas compte aussi que c'est un système vertueux. Parce
absolument.
Que c'est un système qui rapporte beaucoup d'argent aussi derrière, puisque comme les spectacles existent, ils ramènent de l'argent forcément, de la trésorerie à l'État. Et
des taxes payées.
Et surtout, un spectacle, c'est des restaurants qui sont complets à côté.
Mais quand on parle de ce que coûte un intermittent, déjà, pour moi, il y a une erreur de base, c'est pas une entreprise,
exactement.
Le pays. Donc, au contraire, même si tu as l'impression qu'il coûte de l'argent, c'est bien la preuve qu'il avait besoin qu'on l'aide. Et ensuite, effectivement, on oublie que la grosse masse de l'argent qui nous permet de créer des écoles, c'est aussi la TVA, et que la TVA, elle est payée pour chaque billet que tu vends.
Et ça, les droits d'auteur, les taxes fiscales,
on le met pas dans le calcul. On le met pas dans le calcul de ce que rapporte un intermittent. On regarde juste combien il a gagné, combien il a cotisé, combien il a coûté. Mais en fait, s'il n'était pas là, ça rapporterait moins.
Il fait partie d'un
puzzle. Le monde du spectacle générerait moins d'argent.
Vertueux. Moi, je le crois, c'est vertueux.
Oui,
la création, ça motive
juste,
les gens.
Sincère,
en plus,
bien sûr,
les gens qui viennent voir des spectacles, ils ont beaucoup plus d'énergie le lendemain, ils sont beaucoup plus heureux. C'est vertueux pour moi.
Ouais. Mais même au-delà de la bonne humeur qu'ils mettent, parce qu'il y a un côté, c'est bon, c'est intermittent, c'est des saltimbanques. Non, c'est un secteur qui rapporte de l'argent.
Et puis c'est bien qu'on soit tous des saltimbanques. Enfin, moi, je trouve ça formidable. Ouais. Je revendique ce titre.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est même au-delà de « oui, mais ça met la balle à nos gens ».
C'est une économie
qui rapporte de l'argent.
Exactement.
Oui. Voilà. Avant, tout à l'heure, tu parlais de maisons de disques et tout ça. Avant, l'industrie du disque était une industrie gigantesque face au marché du spectacle. Moi, je me souviens de cette époque des années 80 où un billet de spectacle, une place pour un concert, par exemple de Jean-Jacques, correspondait au prix d'un album. Bon. Aujourd'hui, un album est à 15 euros. Place de spectacle, en moyenne, on est beaucoup plus cher que cela. Donc, l'économie du monde du spectacle est très différente de celle qu'elle pouvait être. Et pour l'État, en effet, il y a beaucoup de recettes. Donc, on ne peut pas mettre uniquement des coûts si on ne met pas en face les recettes générées par cette économie.
Je veux juste faire une petite parenthèse, mais c'est pour le kiff. Comment il était Michel Berger?
Michel, je l'ai peu connu.
Ah,
il est mort en 92. Je l'ai un petit peu connu, un petit peu. Mais j'ai très bien connu France.
Ouais.
Mais Michel est mort en 92. Donc, à cette époque-là, il travaillait. Il avait d'autres producteurs. Moi, je n'étais pas son producteur. On avait fait des concerts ensemble à Lyon lorsque j'organisais des spectacles. Donc, on a dîné quelques fois ensemble. Mais ce n'était pas quelqu'un dont j'étais très proche. On se connaissait pas.
D'accord.
Et France, on est devenu très proche à la fin de sa vie. Lorsqu'elle a décidé de monter cette comédie musicale Résiste. Elle m'a contacté. Et je dois dire que j'aurais aimé que ça dure tellement, parce que je me suis tellement marré avec elle. J'ai vécu des moments tellement merveilleux, parce que pour moi, c'est quelqu'un de gigantesque. C'est une chanteuse merveilleuse, c'est une artiste accomplie. Et bon, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps devant nous. Mais on a pu faire ce spectacle Résiste, qui a été vraiment quelque chose qui a beaucoup plu. Je crois que les critiques, c'était le plus beau spectacle musical des 15 dernières années, et c'était en 2015, puisque malheureusement, on a ouvert juste quelques jours avant les attentats du Bataclan. Donc, ça a été une période difficile, mais avec elle, ça a été que du bonheur. Que du bonheur. C'est formidable. Tu aurais beaucoup aimé, France.
Ah bah je...
Et elle t'aurait beaucoup aimé.
Voilà quoi, ce sont des monuments dans ma vie.
Vraiment.
Les To Be Free.
Tout à l'heure, je parlais des jeunes. Et alors, ils m'ont sauvé la vie la deuxième fois,
c'est
lorsque
vrai.
Je me suis cassé la figure en 97. Là, c'était pas du tout pour David Bowie, le pauvre n'y était plus pour rien. Mais bon, j'avais pas d'affaires, j'avais plus rien, j'avais des salariés à payer, j'avais pas d'affaires. Et donc, le trou était pas gigantesque, mais j'arrivais plus à avancer. Et puis, un copain m'a appelé, m'a dit: est-ce que tu veux qu'on s'occupe ensemble des To Be Free? Je dis: pourquoi pas. Et on a vécu une très jolie histoire ensemble, donc les Zéniths, les Bercy et tout ça. Et voilà, ça a été un moment où j'avais vraiment besoin que la société puisse repartir. Et ça s'est appelé TS3 pour ça, parce que c'était ma troisième société.
Ah oui, donc tu as monté 3 sociétés.
Enfin, j'en ai monté 2 avant. Je me suis cassé la figure 2 fois.
Ce qu'on dit souvent sur les entrepreneurs, quand ils se cassent la gueule plusieurs fois, c'est pas une légende.
Non. Quand tu joues tout sans filet, c'est-à-dire qu'à l'époque, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'aide, mais à l'époque, il n'y en avait pas du tout. C'est-à-dire que c'était vraiment... marche ou crève, c'était difficile. Tu sais, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de zénith. On passait sous des chapiteaux, on louait à des gens qui étaient spécialisés dans le montage de chapiteaux. Et c'était une époque, hein, moi je me suis bien marré, mais c'était tout à fait un autre métier. C'était pas organisé comme les zéniths. On était dans des champs de boue, tu vois, l'artiste arrivait, sa voiture se garait, Johnny Hallyday, Michel Sardou, ils arrivaient, c'était impraticable la veille ou l'avant-veille.
Ah, oui.
Les salles étaient montées, redémontées le lendemain, et le chapiteau suivait comme ça, comme un cirque itinérant, suivait la tournée. Donc, Guy Bedos, j'ai des souvenirs de parler de ça avec lui, parce que c'était pareil pour les humoristes qui faisaient beaucoup de monde. Donc, il n'y avait pas toutes ces salles qui datent de l'époque et de l'ère Jacques Lang.
Ah oui, d'accord. Donc, il y a eu un ère Jacques Lang qui a créé.
Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment.
Et on le voit d'ailleurs dans toutes les régions, dans toutes les villes qu'on va, des villes même assez petites, il y a toujours des salles magnifiques, des salles
maintenant,
de théâtre magnifiques
en France,
ça existe partout.
La
France très grande
est,
qualité.
On était très en retard.
On a fait des chapiteaux avec la tournée Une Bonne Soirée. Attention, on a fait des beaux chapiteaux de réparation à côté quand le théâtre était pas ouf, le théâtre était cassé, on a fait des chapiteaux, c'était pas...
c'est pas facile,
c'est qu'il faut aller chercher. Là-dessus, c'est toutes les années de Café Théâtre qui sortent.
Ah oui,
on va aller chercher les gens, ils sont à 14 mètres devant toi, allez on y va, tac, et on casse les codes.
Mais... Alors justement, j'ai une question, le virage de l'humour, ce que vous en parliez tout à l'heure, c'est que pendant des années et des années, tu ne faisais que des musiciens de musique.
C'était très coupé, il y avait Jimmy
Levy,
il y avait des gens comme ça qui étaient d'autres producteurs, et j'avais personne qui venait avec moi, tu vois, parce que c'était, je pense que...
Ah, c'est juste parce que les gens ne venaient pas à toi, toi t'étais pas spécialement fermé.
Moi j'étais très ouvert, mais les humoristes pensaient que j'étais spécialisé en musique et que je ne pouvais pas, comme... J'ai produit Patrick Dupont, par exemple, et les Étoiles de l'Opéra de Paris, les danseurs, et Sylvie Guilhem, etc., et qui était la plus grande danseuse qu'on a vue en France. Et ils disaient tous, mais qui est ce type du show business qui vient? Et puis finalement, on a fait le tour du monde, on est allé au Japon, on est allé aux États-Unis, on a travaillé avec Béjart, etc. On a un monde, moi j'ai essayé de décloisonner ici. C'est-à-dire que j'ai essayé de dire j'aime le spectacle au sens large. Alors aujourd'hui, j'ai des projets de pièces de théâtre, j'en ferai d'autres. J'aime ça, j'aime ne pas avoir de genre. On a fait Swan Lake, qui était le spectacle où c'était un lac des cygnes où tous les hommes étaient habillés en cygnes. Enfin, tous les cygnes étaient des hommes plutôt habillés. Et on l'a fait deux fois, on a fait 100 000 personnes à Paris. Bon, pour un ballet, c'est le record. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de ventes de billets pour un spectacle de danse, parce que ça permettait au grand public qui ne connaît pas forcément le lac des cygnes de se dire j'ai pas besoin d'aller à l'opéra, je suis dans un monde plus accessible que ceux
plus
qui
habituel,
voilà plus habituel. J'aime ça en fait, tu vois, que de pas être un producteur qui fait que de la musique, que de l'humour, que du théâtre, mais de dire on peut tout faire parce que le spectacle, si on l'aime, on aime tout.
Alors comment ça s'est opéré le virage de l'humour? C'est toi qui a commencé
Mercier,
à aller voir des gens en disant
Valérie
s'il te plaît,
que je connaissais,
laisse-moi te produire, tu fais des blagues? Ou est-ce que...
Eh ben non, c'est Valérie Le Mercier à qui je dois ça. Elle m'a appelé, je crois que c'était en 2007 ou 2008. Son attaché de presse, Olivier Guy, qui était un copain, m'a appelé, m'a dit, voilà, est-ce que tu aimerais faire le prochain spectacle de Valérie? J'ai dit, mais j'en rêve, on se connaît depuis toujours. Et dit, voilà, c'est le bon moment, je crois que...
Ah, c'est parce qu'elle te connaissait?
Elle me connaissait, elle savait qui j'étais, on s'était rencontrés. Et j'ai décidé donc de créer une société dédiée à l'humour à ce moment-là. Et ensuite, Florence est arrivée.
TS4
TS4, absolument. Parce que j'ai créé TS5 après pour les, pour les... C'était pour m'amuser, pour que les gens se disent, ils ont encore cassé la figure, ils vont nous... Donc je me suis amusé un petit peu à faire jaser les mauvaises langues. Mais ouais, c'était ça. C'était Valérie, puis Florence, et puis Muriel Robin. Et donc un jour, je me suis réveillé, je crois que c'est en 2013, je me dis, waouh, Valérie, Florence, Muriel, les trois stars féminines de l'humour sont chez nous tout d'un coup, c'est arrivé très vite. C'était merveilleux. Et puis après, il y a des garçons qui sont arrivés. Mais au début, on n'avait pas d'humoriste masculin. Donc je me suis dit, voilà, il faut qu'on s'y mette, les garçons. Donc Éric Antoine, je crois, a été le premier, si je ne me trompe pas, à nous rejoindre. Et puis aujourd'hui, ben, c'est formidable. Parce que c'est tous des copains, c'est vous, c'est
oui,
Alex Vizorek, c'est Baptiste Caplin, c'est Monsieur Fraise, Marc Fraise, c'est Jonathan Lambert, c'est toute une bonne bande de gens que j'aime et qui font partie de cette famille.
Il y a un truc que tu m'avais dit quand on s'est rencontrés, c'était sur la Foresty Party de Florence.
Ouais, en 2012.
Donc, 5 Bercy, 3 Altony Garnier.
Absolument.
Ou 8 Bercy, 5 Tony Garnier.
Non, 5 et 3, c'est ça.
C'est ça.
Ta mémoire est bonne.
Donc, on est sur du... Et puis après, un live sur TF1 le dimanche soir, en direct et tout, dans les cinémas. Je crois que c'est dans les cinémas.
Les cinémas.
Je venais de faire Bref et tu m'avais dit... Toi, ce serait cool que tu venais de voir ce que je venais de faire sur scène. Tu m'as dit, si jamais un jour tu fais un truc sur scène, j'adorerais venir voir.
Voilà. C'est ça.
Contrairement à tous les producteurs, enfin, beaucoup de producteurs, pas tous les producteurs, mais beaucoup de producteurs qui m'ont dit, vite, faut faire le spectacle maintenant. Sinon, on va t'oublier.
Bah oui.
Ça a été un tournant pour moi en me disant, OK, j'ai dit à Navo, je crois qu'il faut travailler avec ce gars-là, parce qu'en fait, il va jamais me stresser. Il est consciencieux. Il a un peu la philosophie de Denisot qui disait, dépêchez-vous, mais ne vous pressez pas.
C'est joli, je connaissais pas.
Et je me suis dit, j'avoue, putain, j'ai rencontré un gars, je crois que déjà, il est en basket. Il est venu tranquille, il est venu avec son yinche. J'aime bien les chiens. Le gars est venu.
Ah, ça, on est en commun.
Bah
ça,
oui, non, mais voilà, j'aime bien les chiens, il est sympa. Il me dit, quand t'es prêt? Et je fais, putain, c'est exactement ce que je ressentais au fond de moi. Je dis, je ne suis pas prêt. Si ouais. tu veux, là, on lance 32
c'est
élites,
qu'on sortait
mais je ne suis pas prêt.
Ou, ouais, c'est vrai qu'on sortait de trucs de merchandising ouais. où on bouclait tout, on déchirait le contrat parce qu'il voulait absolument viser Noël et qu'il faisait n'importe quoi. C'est qu'on sortait de ce truc.
Arnaqué dans tous les sens.
On sortait de ce truc où j'étais là, ouais, on veut bien faire tel truc, mais si vous le faites dans les 4 mois, parce qu'après, on ne sait pas ce que ça va devenir, est-ce qu'il y aura bien écrit bref dessus? Il y aura écrit bref, en gros. Donc c'est vrai que ça dénotait un peu ce.
La peur, tu sais, on agite la peur.
Tout le monde nous voulait nous presser, quoi.
Ouais, c'est maintenant ou jamais, quoi.
Même des proches qui disaient, ah ouais, les gens vont t'oublier. Les gens vont t'oublier. C'est dramatique quand t'es un artiste naissant, déjà, les gens vont t'oublier. Comme si on était un effet de mode et tout. Et j'étais pas prêt. C'est-à-dire que si on avait lancé 10 zéniths, peut-être qu'on les aurait remplis.
Bien sûr.
Mais j'aurais été en souffrance totale et j'aurais été pas d'accord. Et je pense qu'il faut pas décevoir les gens. Si t'es pas prêt, que tu le sais que t'es pas prêt, tu fais un spectacle, t'es pas prêt, t'es pas d'accord avec ce que tu racontes, les gens, ils passent un moment sympa parce qu'au final, j'aurais sauvé les meubles. Je me connais. Mais je l'aurais mal vécu, tout le monde. Les gens seraient parvenus. Or là, ce qu'on voulait construire, et tu m'as dit, viens, on construit, on a construit Pulsion ensemble.
Et c'est ce qu'on fait depuis, et c'est, on va vers les sommets, donc c'est ça qui est intéressant. Mais parce qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que d'oser dire à un artiste, on va t'oublier, c'est le mettre dans un système de peur. Moi, je ne veux pas être régi par ça. Je ne veux pas être régi par des peurs. Je veux vraiment qu'on travaille, qu'on soit fiers. Parce que est-ce que l'aboutissement, c'est de faire 32, 64 ou 100 zéniths, ou c'est d'être faire un travail dont on est très fier
ouais.
et de l'accompagner au bon moment? Parce que les 100 zéniths, ils arriveront. Mais ils arriveront au bon moment. Alors que c'était pas prévu.
Il est fort. Hein.
Abonnez-vous à la chaîne. Vous voyez. Tout est relié.
On peut plus rien dire. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut. On doit pas. Mais nous tous, dans tout ce que l'on peut faire, et si des jeunes qui ont envie de faire le métier d'humoriste, d'auteur ou de producteur, je pense que ne soyez jamais. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire il n'y a pas de place, il n'y a pas de débouché.
Il n'y a qu'un gâteau, il est déjà pris.
Mais et toi, tu connais personne, et tu n'as pas ci, et tu n'as pas ça. Battez-vous, retroussez les manches et croyez en vous. Et n'écoutez pas les gens qui vous mettront dans une peur.
Prenez le Concorde, allez faire vos courses à New York, et après vous arrêterez de le faire. Vous
j'aurais pas dû dire ça. Ça, c'est l'anecdote. Non, parce que c'est drôle.
Ça va être ça toute sa vie. À chaque fois qu'on va se voir, Thierry, tu vas faire une course.
Ça y est, ils ont remis le Concorde.
Non, mais.
Dès qu'il va dire je vais acheter du pain, on va dire attends, mais où?
À New York, il n'y a pas de Concorde.
Pour vous dire, il y a un truc que j'aimerais témoigner aussi, c'est quand j'ai dit putain, Pulsion, c'est trop bien, on a une petite capta. Viens, on la met gratuitement sur Internet. Tu m'as dit, franchement, je te fais confiance. Ben tu m'as dit, j'y connais pas grand-chose, mais vas-y, en France.
Voilà, exactement. Mais parce que c'est ça. C'est depuis, tu me fais confiance ouais. pour beaucoup de choses. Je te fais confiance pour cette partie média que tu connais bien mieux que moi. Et j'essaie de m'accrocher comme je peux à cette période que nous traversons tous en ce moment, la transformation médiatique qui est quotidienne, parce que
c'est
qui était valable l'année dernière l'est déjà plus. Et tout date, donc j'essaie de m'accrocher, mais je ne suis pas un précurseur, forcément. C'est ma génération, on n'est pas habitué à ça. Et toi, tu nous fais bouger. Tu fais bouger les lignes. Tu vois, à chaque fois, quand tu dis, on ne va pas faire d'affichage à Paris, on va faire un travail web, c'est super intéressant. Pour moi, pour mes équipes, et on est tous... très content d'être tiré par quelqu'un qui amène des idées et qui est convaincu de quelque chose. Et puis, t'es comme tout le monde. Si un jour tu te trompes, c'est pas grave, on passe à autre chose.
On aura essayé.
On dira, c'est pas le bon truc, c'est pas grave.
Après, on mettra les affiches, c'est pas grave.
Mais vraiment la peur, je pense qu'il y a
finalement,
rien de pire. Ouais, finalement, ça, imprimez-moi une vieille affiche. Non, mais il faut vraiment être toujours dans quelque chose qui va vers... ce qui nous tire vers le haut et pas vers le bas. Les gens qui te disent, on va t'oublier, c'est te tirer vers le bas, j'ai horreur de ça.
Je suis d'accord avec toi.
Mais on a eu suffisamment de conversations, toi et moi, sur la peur. Parce que
la peur.
Toi ou moi...
Surtout que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te faire peur. Tu es déjà suffisamment anxieux pour le faire tout seul. Alors, si tu t'entoures de gens qui te disent...
Qui vont t'emmener là-dedans.
Attention derrière toi, tu fais...
C'est le bateau qui coule. Hein, parce qu'après, tu me retrouves, je fais une dépression après à la fin de la tournée, c'est sûr.
Bien sûr. Pas à la fin.
Oui, même pendant. Non, mais c'est vrai.
Tandis que Navo, il faut peut-être trouver quelqu'un qui lui fait un peu peur.
Oh, je sais même non. pas. Non, je crois non, pas non. que je suis. Non, je pense juste que je suis flemmard. En fait, moi, j'ai déjà trouvé quelqu'un qui me donne envie de faire des trucs. C'est Can.
Bah oui. Et tu fais ce qui te convient à toi. Mais on revient toujours à ça. Faire ce qui te convient.
C'est
ça.
C'est juste que toi, tu me dis alors, est-ce que tu feras un spectacle, l'un de ces quatre? J'aimerais bien voir. Je dis, faudrait que ça fasse. Faudrait que Can en ait besoin que je fasse un spectacle. C'est vrai qu'il se casse la jambe.
La clé, elle est là.
Simuler un truc, genre t'arrives sur scène, tu te casses la jambe.
Ne me le cassez pas. J'ai un plan sur 10 ans qui est déjà préétabli.
Parfait. Non, mais c'est très bien.
L'émission en fait partie. Voilà, à un moment donné,
c'est
tu verras.
Bien, c'est très bien.
À un moment
c'est
donné, il y aura le... Et ce sera le bon moment. Tout est relié, vous avez vu.
Oh là là, tout est relié. Oh là là, oh là là.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans la vie, Thierry?
Ah, j'aurais dû la préparer pour pas dire n'importe quoi. Alors, spontanément, ça va être vraiment... crois en toi, n'aie pas peur. Tout est là, tout est devant toi. Tout est devant toi, tout est écrit déjà, tout est là. Et je pense que c'est comme ça, t'as qu'à te servir dedans. Les bonnes choses, elles sont là, il faut juste savoir les prendre. Et ce qui n'est pas bon, tu vois très vite. Voilà. Crois en toi, avance, n'aie pas peur.
T'as beaucoup travaillé sur ton entourage ?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
T'as eu des choix contre-cœur à faire,
Et on en a tous les jours, nous tous. Je pense que la vie, elle est faite tous les matins, on doit décider si on prend la route à droite ou à gauche quand on sort chez nous. C'est valable pour tout. C'est valable pour tout, pour la personne qui nous accompagne dans la vie. C'est valable pour ce que l'on va choisir au restaurant, ce qu'on va choisir au supermarché, ce qu'on va choisir pour aller au théâtre, au cinéma. Tout est choix.
On prend le Concorde de 10h ou de 10h30.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de Concorde. Comme ça, tu peux plus trop. Et tous ceux qui sont très jeunes ne savent même pas de quoi on parle. Ils sont en train de taper sur Google, place. Mais c'est quoi ce truc-là? Parce que forcément, c'était une autre époque. Mais vous auriez beaucoup aimé. Enfin, toi, t'aurais peut-être mis un peu peur. Mais,
ah, moi, j'ai un peu peur.
Mais t'aurais vu la courbe de la Terre à travers le hublot. C'est très magique. Très
ah
beau.
Oui.
Ouais, c'était très beau. C'était très chouette. Finalement, on va aller faire des courses à New York.
Jour, j'ai acheté du Nutella, mais il y en a au France.
Oui, c'est pas le même.
C'est créé en New York.
C'est vraiment une autre
c'est
époque.
New York.
C'est vraiment une autre époque.
C'est vraiment une autre époque. Et voilà. Mais c'est une époque où on avait conscience de pas grand-chose, tu vois. C'était les années 80. Les années 80, c'était... Il y avait les années juste avant le sida aussi, qui étaient le début des années 80, et puis ce qui a changé après. Que ce soit dans les clubs, dans la relation, enfin, c'est des années qui marquent. On voit bien le retour de la musique des années 80, c'est des années importantes. Tout a bougé à partir de là. On ne parlait pas d'écologie en 1980, tu vois, ça n'existait pas.
Ah aujourd'hui, bah oui, prendre le Concorde, aujourd'hui, tu prends le Concorde pour aller faire des courses dans la journée.
Enfin, remarque, attends, je ne vais pas citer personne, mais il y en a qui prennent leur fusée pour aller rester 3 minutes en apesanteur. Donc, excuse-moi,
je pense que tu vises quelqu'un, mais après, je ne suis pas...
Enfin, et quelques-uns, puisque évidemment,
oui, ils sont
il y a un petit concours maintenant pour savoir. Voilà, il vient d'avoir d'autres qui prennent leur billet déjà. Pour, hein. Donc voilà, bon, tout est recommencement.
Est-ce qu'il y a un artiste que tu aimerais recommander, quelqu'un, quelque chose, un coup de cœur que tu as eu récemment?
La dernière signature que l'on a chez nous en humour, c'est Laura Felpin.
Laura Felpin.
Donc, on sent déjà qu'il y a une adhésion, il y a un public, il y a une communauté
génial.
Qui se tisse. Et voilà, je suis très content.
Merci Thierry.
Merci beaucoup.
Merci
à vous
beaucoup d'être venu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Non, merci pour votre amitié. Moi, voilà, ça m'amusait d'être avec vous et j'ai l'impression qu'on a passé.
Tu parles pas beaucoup dans les médias, t'es très discret.
Non, parce que c'est pas ma place, c'est la vôtre. Mais c'était la.
Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent, qui ont envie d'être producteurs, qui savent pas, qui ont envie de travailler avec les artistes.
Alors,
c'est ça qu'il faut.
Qui rêvent, voilà. Et qui écoutent personne surtout. Tu vois, qui poussent les portes et qui disent ouais, c'est facile à dire. Non, c'était pas facile. Pousser les portes.
D'accord.
Mais comme toi, comme.
Oui, bah, de toute façon,
quand on dit comment on fait.
Pas le choix. Faut faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez nous soutenir, on a unebonneboutique.com. Vous pouvez aller nous soutenir sur la boutique. J'espère que ça vous a plu. Partagez cette émission. Si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles, le plus d'étoiles que vous estimez d'être bien, en fait. Ça met en avant le podcast vis-à-vis de plein de gens que vous ne connaissez même pas. Et du coup, ça nous fait connaître. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt.
Pam 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 padam pam.
Ouais, c'est ça. Non, c'est, il est bien d'ailleurs le générique. J'aime bien.
Je me chante parce que ça me manque. Comme je dis, allez, au revoir.
Merci à vous deux. C'est très sympa.
C'est pour faire de rigoler des gens.
C'est pour faire de rigoler des gens.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.